Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez, vous écoutez Osez Investir, le 67e numéro, et oui déjà, de l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Laurence.
Alors, vous allez évoquer quel sujet cette semaine, Thomas?
Eh bien, comme innovation de la semaine, on va parler d'une station de charge stérilisateur pour téléphone. On va recevoir ensuite Sophie Richard, qui est fondatrice et gérante de Viagimo, un réseau d'agences immobilières spécialisées dans la vente en viager. On continuera avec notre consultant en gestion de patrimoine, Guy Marty, et nous allons partir dans l'heure pour un focus sur l'immobilier neuf à Louviers.
Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec nos chroniqueurs, bien sûr, afin de faire la rétro 2020.
TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente
Sud Radio, Osez Investir, la clé de la semaine.
Alors aujourd'hui, Thomas, vous allez nous parler d'un thème qui agite les chroniques depuis toujours, mais particulièrement depuis un an déjà.
Et oui, absolument, Laurence. Les bactéries sont devenues notre hantise à toutes et à tous. Et vous n'êtes pas sans savoir que nos téléphones sont un grand sujet de discussion quant aux bactéries qu'ils cumulent chaque jour, voire à chaque instant. D'ailleurs, une étude américaine a révélé qu'il y a plus de 7000 types de bactéries sur un téléphone portable.
Oh, ben ça donne envie. Alors justement, absolument, vous allez nous parler de la station de charge à induction avec stérilisateur UV intégré qui s'appelle Oblio by Lexon.
Oui Laurence, et je voudrais vous parler donc d'une superbe invention qui est à la fois innovante et esthétique. C'est une station de charge à induction avec stérilisateur UV intégré qui est sous forme de vase comprenant une lampe UV antibactérienne. C'est un appareil qui élimine 99,9% des germes de l'écran et de la surface de votre smartphone en 20 minutes.
Bon, bah forcément, Thomas, on a besoin d'un petit mode d'emploi. Comment ça fonctionne?
Et bah, il vous suffit de glisser votre smartphone dans votre Oblio pour profiter de la charge par induction 10 watts qui rechargera entièrement votre smartphone en 3 heures pour une désinfection à 365 degrés. C'est compatible avec tous les téléphones qui sont dotés de la charge à induction. Son indicateur LED confirme le bon positionnement et le statut de charge de votre appareil.
Bon, la question qui se pose, combien ça coûte, Thomas?
Eh bien, ça coûte 74,90€ et il est disponible en 4 coloris, en blanc, noir, bleu sombre et or.
Sud Radio, Osez Investir.
Et votre invitée cette semaine, c'est Sophie Richard, fondatrice et gérante de Viagimo, réseau d'agences immobilières spécialisées dans la vente en viager.
Oui Laurence, Viagimo a été créé en 2017 et est composé de 15 agences, dont la dernière vient de s'implanter à Toulouse. Bonjour Sophie Richard.
Bonjour.
Avant toute chose, Sophie Richard, c'est quoi un viager?
Alors, un viager, c'est avant tout une vente immobilière avec des particularités quant aux conditions et aux prix. On distingue deux types de viagers, le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé est plus connu puisque le vendeur reste vivre chez lui. Et dans le cadre du viager libre, le vendeur remet les clés au jour de la signature chez le notaire. Et l'acquéreur peut donc occuper ce logement en résidence principale, par exemple.
Donc, il n'y a que deux formes de viager?
Principalement, oui. De vente en viager. Après, on est également spécialiste de la vente à terme, mais c'est plutôt une alternative à la vente traditionnelle. Il n'y a pas d'aléa comme en viager, puisque le viager repose avant tout sur un aléa, qui est la condition substantielle de cette vente.
Alors, c'est quoi un bouquet? Dites-nous.
Alors, un bouquet, ce ne sont pas des fleurs dans notre métier.
On imagine bien.
C'est une somme qui est versée comptant au jour de la signature chez le notaire. Et il n'y a pas forcément de bouquet tout le temps dans une vente en viager. Il peut y avoir une pleine rente viagère si tel est le choix du vendeur et si ce sont ses besoins. Pourquoi pas payer une maison de retraite à moyen terme si le bien est vendu en viager occupé, par exemple.
Alors, vous êtes d'accord avec nous pour dire que c'est une forme un peu particulière de faire de l'immobilier. Alors, quel est l'intérêt concrètement pour chaque partie d'avoir recours à un viager?
Alors, à mon sens, le viager est une réponse apaisée à notre contexte socio-économique actuel et les dernières actualités n'ont fait que confirmer que le viager était une réponse apaisée à la problématique des retraites, que ce soit pour le financement de la dépendance ou que ce soit pour l'accession à la propriété qui est jugée de plus en plus difficile pour les Français. Donc, dans le cadre du viager occupé, par exemple, l'investisseur va faire le choix d'épargner différemment dans la pierre, qui reste la valeur tangible et refuge des Français, et il va faire un investissement dans de l'immobilier décoté. Il va acheter son bien à prix réduit du fait de l'occupation par le vendeur, Et sous cette forme de vente, en viage occupé, il n'aura pas à connaître de pression fiscale et de tracas locatifs, notamment avec, comme ça peut être le cas sur des projets en défiscalisation, par exemple.
Alors, le viager, c'est lié à certains aspects de vie. C'est pas tabou d'envisager un viager, sachant que c'est lié donc à la notion de fin de vie, souvent ?
Alors, c'est forcément lié à la notion de fin de vie, puisque le viager repose sur l'aléa, qui est d'ailleurs, viager tire son nom de viage, qui veut dire temps de vie. Le viager est une vente ancestrale, et pour autant, à mon sens, elle est vraiment actuelle et moderne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de méconnaissances autour de ce dispositif, et donc d'idées reçues. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai créé un guide pratique du viager, pour mieux décrypter, mieux comprendre, et inverser cette image obscure qu'on peut avoir de cette vente-là, puisque c'est une vente qui va mutualiser les intérêts de chacun. Et c'est vrai que si le contrat est juridiquement bien encadré par l'expert viagériste, alors il sera éthique et moral, puisqu'on va vraiment mutualiser les intérêts de chacun dans un rapport gagnant-gagnant.
À quel âge en moyenne on fait un viager ?
Alors, il n'y a pas d'âge, hein, légalement, le Code civil, le législateur n'a pas imposé un âge minimum ou maximum par ailleurs. Vendre à partir de 63 ans me paraît tout à fait correct. Je préconise régulièrement d'avoir un delta d'âge de 20 ans entre le vendeur et l'acquéreur.
L'allongement de la vie, la crise, est-ce que ça va privilégier le viager selon vous ?
Évidemment, c'est comme je vous l'indiquais, je pense que c'est une réponse évidente. Les tables d'ailleurs qui nous permettent de calculer les viagers sont toujours actualisées, donc on achète bien moins cher un viager aujourd'hui qu'on l'achetait il y a 20 ans. On va tenir compte de l'espérance de vie actuelle des vendeurs. On va d'ailleurs différencier nos calculs selon que le vendeur soit un homme ou une femme, puisque les femmes ont statistiquement une espérance de vie plus longue que les hommes et qui doivent anticiper. Et donc, anticiper avec les charges courantes d'aujourd'hui, c'est notamment grâce au viager occupé, faire le choix d'investir dans la pierre, dans de l'immobilier à prix réduit.
Sophie Richard, si je souhaitais acheter un bien immobilier en viager, à quoi dois-je faire immédiatement attention ?
Alors, il faut faire très attention à ce que toutes les conditions soient prévues. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien encadrer le contrat avec un spécialiste de cette vente. C'est une vente qui ne s'improvise pas, puisqu'une fois que vous avez, à la différence d'une vente traditionnelle, signer votre contrat, il n'y a pas de point retour possible. Donc, si vous n'avez pas prévu, par exemple, en tant qu'acquéreur, quid du droit d'usage et d'habitation, si la personne doit partir en maison de retraite, si elle est dans le coma, si elle a Alzheimer, comment se passe la remise des clés, par exemple, côté vendeur, côté acquéreur. Et côté vendeur, des clauses substantielles, c'est notamment les garanties en cas d'impayé de la rente viagère, c'est la réversibilité de la rente, sur le conjoint survivant notamment. Voilà, donc il y a plusieurs choses à ne pas omettre et donc le recours à un spécialiste est fortement recommandé.
Merci Sophie Richard, je rappelle que vous êtes la dirigeante de Viagimo, réseau d'agences immobilières spécialisées en viager.
Sud Radio, Osez Investir.
Guy Marty, vous êtes le consultant d'Osez Investir en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr. Alors, on vient de parler du viager à l'instant. Vous avez donc une anecdote à nous raconter sur ce sujet.
Oui, Thomas, il est bien connu que le viager peut connaître des issues très inégales. Ainsi, Charles de Gaulle, lorsqu'il était encore lieutenant-colonel, a acheté sa propriété de la Boisserie et à peine 2 ans plus tard, la personne occupante est décédée d'un accident de baignoire. A l'inverse, dans le film Le Viager de Pierre Tchernia et René Goscinny, Michel Serrault a vendu sa maison en viager à 59 ans parce qu'il était très malade et condamné à brève échéance. Mais voilà, il est devenu centenaire.
Et comme avec Jeanne Calment.
Là, le notaire qui a acheté en viager à une dame de 90 ans n'a vraiment pas eu de chance, car elle a vécu jusqu'à 112.
Alors si je comprends bien, le viager est autrefois une pratique courante, puis il a connu une éclipse, et il revient aujourd'hui à la mode. Comment expliquez-vous cela ?
En fait, il s'est passé un phénomène inattendu et formidable. Pour faire simple, entre 1950 et aujourd'hui, l'espérance de vie des hommes a progressé de 64 à près de 80 ans, et celle des femmes de 69 à près de 86. Comment voulez-vous passer un contrat sur l'avenir, ce qu'est le principe du viager, quand l'avenir se déplace à chaque instant ? Nous avons tous été pris par surprise, même si c'était une belle surprise. Aujourd'hui, la situation est différente. D'abord parce qu'on n'est plus dans l'inattendu. Ensuite, il se trouve que l'allongement de la vie a fait naître de nouveaux besoins financiers pour les différentes générations, jeunes ou moins jeunes, ou plus jeunes du tout. Et voilà pourquoi le viager retrouve une nouvelle jeunesse.
Merci Guy.
Immoestime, commercialisateur en immobilier neuf, présente...
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Et maintenant Thomas, nous sommes en duplex avec Karine Julia-Elkaïm, elle est présidente du groupe Polylogis Promoteur et vous allez nous parler ce matin de l'immobilier neuf sur Louviers dans l'Eure.
Bonjour Karine Julia-Elkaïm, comment se porte le marché du neuf sur Louviers et quelle est sa tendance actuelle?
Alors Louviers est effectivement une ville à 30 km de Rouen qui est en pleine mutation, parce qu'il y a beaucoup de projets économiques dans cette ville avec l'implantation de grandes entreprises comme Hermès, etc. Et donc ça a forcément beaucoup fait évoluer les projets d'habitat. C'était une ville où il y avait peu de neuf jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Nous, on a fait le pari de travailler donc avec la collectivité pour pouvoir implanter des opérations neuves. Et donc, on a plusieurs opérations dans le neuf en cours actuellement à Louviers.
Alors, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un investissement, un placement sur Louviers, vers quel type de bien dois-je m'orienter?
Alors, quand on fait de l'investissement locatif de défiscalisation, et en particulier, une des questions à se poser quand même à terme, c'est savoir ce qu'on voudra faire de ce bien. Est-ce qu'on voudra le revendre ou est-ce qu'on veut en faire quelque part un peu du patrimoine pour une résidence secondaire, par exemple, ou même pour sa résidence principale quand on partira à la retraite. Et donc, en fonction de ça, effectivement, on peut regarder un peu la typologie à choisir. Si on veut faire plutôt de la revente pour que ça soit un bien qui ne soit pas trop lourd au départ, et ben, il vaut peut-être mieux s'orienter sur des plus petites structures, par exemple des studios ou des T1 ou des T2. Si on veut garder ça pour plus tard, pour soi-même par exemple, ben on peut plutôt s'orienter sur des structures un peu plus grandes comme des T3.
Dernière question, si je veux investir dans le neuf, à quoi dois-je faire attention? Est-ce qu'il y a un point précis de vigilance?
Alors je pense que ce qu'il faut regarder, c'est aussi l'opération en elle-même. Quand on achète dans du neuf, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est une opération où on va avoir beaucoup plutôt de locataires ou est-ce qu'il va y avoir des propriétaires. Et ça, c'est intéressant et important aussi parce que ça permet de maintenir, quand on a des locataires d'une manière importante dans une opération, c'est peut-être moins d'entretien dans les parties communes. Donc, quand on veut garder un bien, c'est important de se poser la question de savoir la mixité auprès de cette opération.
Merci Karine Julia-Elkaïm.
Et merci Thomas, restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le club Osez Investir et la rétro de l'année 2020.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens. Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez, vous écoutez Osez Investir, le 67e numéro, et oui déjà, de l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Laurence.
Alors, vous allez évoquer quel sujet cette semaine Thomas?
Eh bien, comme innovation de la semaine, on va parler d'une station de charge stérilisateur pour téléphone. On va recevoir ensuite Sophie Richard, qui est fondatrice et gérante de Viagimo, un réseau d'agences immobilières spécialisées dans la vente en viager. On continuera avec notre consultant en gestion de patrimoine Guy Marty, et nous allons partir dans l'Eure pour un focus sur l'immobilier neuf à Louviers.
Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec nos chroniqueurs, bien sûr, afin de faire la rétro 2020.
TheLoc.fr, la plateforme qui vous simplifie la loc, présente.
Sud Radio, Osez Investir, la clé de la semaine.
Alors aujourd'hui Thomas, vous allez nous parler d'un thème qui agite les chroniques depuis toujours, mais particulièrement depuis un an déjà.
Et oui absolument Laurence, les bactéries sont devenues notre hantise à toutes et à tous. Et vous n'êtes pas sans savoir que nos téléphones sont un grand sujet de discussion quant aux bactéries qu'ils cumulent chaque jour, voire à chaque instant. D'ailleurs, une étude américaine a révélé qu'il y a plus de 7000 types de bactéries sur un téléphone portable.
Ça donne envie. Alors justement, absolument, vous allez nous parler de la station de charge à induction avec stérilisateur UV intégré qui s'appelle Oblio by Lexon.
Oui Laurence, et je voudrais vous parler donc d'une superbe invention qui est à la fois innovante et esthétique. C'est une station de charge à induction avec stérilisateur UV intégré qui est sous forme de vase comprenant une lampe UV antibactérienne. C'est un appareil qui élimine 99,9% des germes de l'écran et de la surface de votre smartphone en 20 minutes.
Bon, forcément Thomas, on a besoin d'un petit mode d'emploi, comment ça fonctionne?
Il vous suffit de glisser votre smartphone dans votre Oblio pour profiter de la charge par induction 10 watts qui rechargera entièrement votre smartphone en 3 heures pour une désinfection à 365 degrés. C'est compatible avec tous les téléphones qui sont dotés de la charge à induction. Son indicateur LED confirme le bon positionnement et le statut de charge de votre appareil.
Bon, la question qui se pose, combien ça coûte Thomas?
Eh bien, ça coûte 74,90€ et il est disponible en 4 coloris, en blanc, noir, bleu sombre et or.
Sud Radio, Osez Investir.
Et votre invitée cette semaine, c'est Sophie Richard, fondatrice et gérante de Via Gimo, réseau d'agences immobilières spécialisées dans la vente en viager.
Oui, Laurence, Via Gimo a été créée en 2017 et est composée de 15 agences, dont la dernière vient de s'implanter à Toulouse. Bonjour Sophie Richard.
Bonjour.
Avant toute chose, Sophie Richard, c'est quoi un viager ?
Alors, un viager, c'est avant tout une vente immobilière avec des particularités quant aux conditions et aux prix. On distingue deux types de viagers, le viager occupé et le viager libre. Le viager occupé est plus connu puisque le vendeur reste vivre chez lui. Et dans le cadre du viager libre, le vendeur remet les clés au jour de la signature chez le notaire. Et l'acquéreur peut donc occuper ce logement en résidence principale, par exemple.
Donc, il n'y a que deux formes de viager ?
Principalement, oui. De vente en viager. Après, on est également spécialiste de la vente à terme, mais c'est plutôt une alternative à la vente traditionnelle. Il n'y a pas d'aléa comme en viager, puisque le viager repose avant tout sur un aléa. C'est la condition substantielle de cette vente.
Alors, c'est quoi un bouquet ? Dites-nous.
Alors, un bouquet, ce ne sont pas des fleurs dans notre métier.
On imagine c'est bien.
C'est une somme qui est versée comptant au jour de la signature chez le notaire. Et il n'y a pas forcément de bouquet tout le temps dans une vente en viager. Il peut y avoir une pleine rente viagère si tel est le choix du vendeur et si ce sont ses besoins, pourquoi pas payer une maison de retraite à moyen terme si le bien est vendu en viager occupé, par exemple.
Alors, vous êtes d'accord avec nous pour dire que c'est une forme un peu particulière de faire de l'immobilier. Alors, quel est l'intérêt concrètement pour chaque partie d'avoir recours à un viager ?
Alors, à mon sens, le viager est une réponse apaisée à notre contexte socio-économique actuel et les dernières actualités n'ont fait que confirmer que le viager était une réponse apaisée voilà, à la problématique des retraites, que ce soit pour le financement de la dépendance ou que ce soit pour l'accession à la propriété qui est jugée de plus en plus difficile pour les Français. Donc, dans le cadre du viager occupé, par exemple, l'investisseur va faire le choix d'épargner différemment dans la pierre, qui reste la valeur tangible et refuge des Français, et il va faire un investissement dans de l'immobilier décoté. Il va acheter son bien à prix réduit du fait de l'occupation par le vendeur, et sous cette forme de vente, en viager occupé, il n'aura pas à connaître de pression fiscale et de tracas locatifs notamment, avec, comme ça peut être le cas sur des projets en défiscalisation par exemple.
Alors, le viager, c'est lié à certains aspects de vie. Ce n'est pas tabou d'envisager un viager, sachant que c'est lié donc à la notion de fin de vie souvent ?
Alors, c'est forcément lié à la notion de fin de vie, puisque le viager repose sur l'aléa, qui est d'ailleurs, viager tire son nom de viage, qui veut dire temps de vie. Le viager est une vente ancestrale, et pour autant, à mon sens, elle est vraiment actuelle et moderne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de méconnaissances autour de ce dispositif, et donc d'idées reçues. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle j'ai créé un guide pratique du viager, pour mieux décrypter, mieux comprendre, et inverser cette image obscure qu'on peut avoir de cette vente-là, puisque c'est une vente qui va mutualiser les intérêts de chacun. Et c'est vrai que si le contrat est juridiquement bien encadré par l'expert viagériste, alors il sera éthique et moral, puisqu'on va vraiment mutualiser les intérêts de chacun dans un rapport gagnant-gagnant.
À quel âge en moyenne on fait un viager ?
Alors, il n'y a pas d'âge, hein, légalement, le Code civil, le législateur n'a pas imposé un âge minimum ou maximum par ailleurs. Vendre à partir de 63 ans me paraît tout à fait correct. Je préconise régulièrement d'avoir un delta d'âge de 20 ans entre le vendeur et l'acquéreur.
L'allongement de la vie, la crise, est-ce que ça va privilégier le viager selon vous ?
Évidemment, c'est comme je vous l'indiquais, je pense que c'est une réponse évidente. Les tables d'ailleurs qui nous permettent de calculer les viagers sont toujours actualisées. Donc on achète bien moins cher un viager aujourd'hui qu'on l'achetait il y a 20 ans. On va tenir compte de l'espérance de vie actuelle des vendeurs. On va d'ailleurs différencier nos calculs selon que le vendeur soit un homme ou une femme, puisque les femmes ont statistiquement une espérance de vie plus longue que les hommes et qui doivent anticiper. Et donc, anticiper avec les charges courantes d'aujourd'hui, c'est notamment grâce au viager occupé, faire le choix d'investir dans la pierre, dans de l'immobilier à prix réduit.
Sophie Richard, si je souhaitais acheter un bien immobilier en viager, à quoi dois-je faire immédiatement attention ?
Alors, il faut faire très attention à ce que toutes les conditions soient prévues. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien encadrer le contrat avec un spécialiste de cette vente. C'est une vente qui ne s'improvise pas, puisqu'une fois que vous avez, à la différence d'une vente traditionnelle, signez votre contrat, il n'y a pas de point retour possible. Donc, si vous n'avez pas prévu, par exemple, en tant qu'acquéreur, quid du droit d'usage et d'habitation, si la personne doit partir en maison de retraite, si elle est dans le coma, si elle a Alzheimer, comment se passe la remise des clés, par exemple, côté vendeur, côté acquéreur. Et côté vendeur, des clauses substantielles, c'est notamment les garanties en cas d'impayé de la rente viagère, c'est la réversibilité de la rente sur le conjoint survivant notamment. Voilà, donc il y a plusieurs choses à ne pas omettre et donc le recours à un spécialiste est fortement recommandé.
Merci Sophie Richard, je rappelle que vous êtes la dirigeante de Viagimo, réseau d'agences immobilières spécialisées en viager.
Sud Radio, Osez Investir.
Guy Marty, vous êtes le consultant d'Oser Investir en gestion de patrimoine et le fondateur de pierrepapier.fr. Alors, on vient de parler du viager à l'instant. Vous avez donc une anecdote à nous raconter sur ce sujet.
Oui, Thomas, il est bien connu que le viager peut connaître des issues très inégales. Ainsi, Charles de Gaulle, lorsqu'il était encore lieutenant-colonel, a acheté sa propriété de la Boisserie et à peine 2 ans plus tard, la personne occupante est décédée d'un accident de baignoire. A l'inverse, dans le film Le Viager de Pierre Tchernia et René Goscinny, Michel Serrault a vendu sa maison en viager à 59 ans parce qu'il était très malade et condamné à brève échéance. Mais voilà, il est devenu centenaire.
Et comme avec Jeanne Calment.
Là, le notaire qui a acheté en viager à une dame de 90 ans n'a vraiment pas eu de chance, car elle a vécu jusqu'à 112.
Alors si je comprends bien, le viager est autrefois une pratique courante, puis il a connu une éclipse et il revient aujourd'hui à la mode. Comment expliquez-vous cela ?
En fait, il s'est passé un phénomène inattendu et formidable. Pour faire simple, entre 1950 et aujourd'hui, l'espérance de vie des hommes a progressé de 64 à près de 80 ans. Et celle des femmes de 69 à près de 86. Comment voulez-vous passer un contrat sur l'avenir, ce qu'est le principe du viager, quand l'avenir se déplace à chaque instant ? Nous avons tous été pris par surprise, même si c'était une belle surprise. Aujourd'hui, la situation est différente. D'abord parce qu'on n'est plus dans l'inattendu. Ensuite, il se trouve que l'allongement de la vie a fait naître de nouveaux besoins financiers pour les différentes générations, jeunes ou moins jeunes, ou plus jeunes du tout. Et voilà pourquoi le viager retrouve une nouvelle jeunesse.
Merci Guy.
Immoestime, commercialisateur en immobilier neuf, présente...
Sud Radio, Osez Investir, Immo News.
Et maintenant Thomas, nous sommes en duplex avec Karine Julia-Elkaïm, elle est présidente du groupe Polylogis Promoteur et vous allez nous parler ce matin de l'immobilier neuf sur Louviers dans l'Eure.
Bonjour Karine Julia-Elkaïm, comment se porte le marché du neuf sur Louviers et quelle est sa tendance actuelle ?
Alors Louviers est effectivement une ville à 30 km de Rouen qui est en pleine mutation parce qu'il y a beaucoup de projets économiques dans cette ville avec l'implantation de grandes entreprises comme Hermès, etc. Et donc ça a forcément beaucoup fait évoluer les projets d'habitat. C'était une ville où il y avait peu de neuf jusqu'à il y a à peu près 2 ans. Nous, on a fait le pari de travailler donc avec la collectivité pour pouvoir implanter des opérations neuves. Et donc, on a plusieurs opérations dans le neuf en cours actuellement à Louviers.
Alors, au-delà de la situation de chacun, si je souhaite faire un investissement, un placement sur Louviers, vers quel type de bien dois-je m'orienter ?
Alors, quand on fait de l'investissement locatif de défiscalisation, et en particulier, une des questions à se poser quand même à terme, c'est savoir ce qu'on voudra faire de ce bien. Est-ce qu'on voudra le revendre ou est-ce qu'on veut en faire quelque part un peu du patrimoine pour une résidence secondaire, par exemple, ou même pour sa résidence principale quand on partira à la retraite. Et donc, en fonction de ça, effectivement, on peut regarder un peu la typologie à choisir. Si on veut faire plutôt de la revente pour que ça soit un bien qui ne soit pas trop lourd au départ, et bien, il vaut peut-être mieux s'orienter sur des plus petites structures, par exemple des studios ou des T1 ou des T2. Si on veut garder ça pour plus tard, pour soi-même par exemple, ben on peut plutôt s'orienter sur des structures un peu plus grandes comme des T3.
Dernière question, si je veux investir dans le neuf, à quoi dois-je faire attention ? Est-ce qu'il y a un point précis de vigilance ?
Alors je pense que ce qu'il faut regarder, c'est aussi l'opération en elle-même. Quand on achète dans du neuf, il faut se poser la question de savoir est-ce que c'est une opération où on va avoir beaucoup plutôt de locataires ou est-ce qu'il va y avoir des propriétaires. Et ça, c'est intéressant et important aussi parce que ça permet de maintenir, quand on a des locataires d'une manière importante dans une opération, c'est peut-être moins d'entretien dans les parties communes. Donc, quand on veut garder un bien, c'est important de se poser la question de savoir la mixité auprès de cette opération.
Merci Karine Julia-Elkaïm.
Et merci Thomas, restez avec nous, on revient dans quelques instants avec le club Osez Investir et la rétro de l'année 2020.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.
Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente.
Sud Radio, le grand matin week-end, osez investir le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Et oui, c'est la suite et on se retrouve avec nos chroniqueurs pour revivre l'année 2020, Thomas.
Absolument, Laurence, en compagnie donc de Bernard Cadeau, notre consultant en logement, et de Guy Marty, notre consultant en placement et fondateur de pierrepapier.fr. On va revivre l'année 2020, on va refaire le match ensemble parce qu'il s'est passé tellement de choses en cette année 2020, une année de sidération pour tous, une année qui est à revivre. Mais seulement avec vous, parce qu'on n'a pas du tout envie de revivre l'année 2020 en 2021. Mais ça, ça sera pour la semaine prochaine. Alors, Bernard Cadeau, quel serait l'adjectif que vous voudriez retenir pour qualifier 2020 ? Lancez-vous, Bernard. Non.
Alors, je vais dire inattendu, c'est même en dessous de la vérité, mais vraiment inattendu.
C'est inattendu ? Bah et vous, oui. Guy ?
Bah moi, j'allais dire inimaginable.
Alors, on est en duplex avec Stéphane Descartier, qui est le président de la Maison de l'Investisseur, commercialisateur en immobilier neuf. Stéphane, votre adjectif à vous, ça serait quoi ?
Moi, ce serait peut-être résistance, parce qu'effectivement, avec tout ce qui nous est tombé dessus cette année, à tout point de vue, finalement, on peut se dire que le marché a bien résisté.
Philippe Tabouret, vous êtes le directeur général adjoint de CAFPI, vous êtes en duplex également avec nous et vous êtes courtier en prêt immobilier. Votre adjectif à vous ?
C'est pas un adjectif, mais réinvention, puisqu'il a fallu se réinventer tout au long de l'année avec les événements.
Guy, comment s'est porté le marché des SCPI ? On va en parler tout de suite, donc les sociétés civiles de placement immobilier. On a connu des records en 2019. 2020, c'est quoi le bilan ?
La collecte n'est pas mauvaise du tout. Oui. On ne sait pas encore si elle va se stabiliser autour de 25, 30, 35% de baisse par rapport à 2019, qui était une année extraordinaire. Donc en fait, elles ont continué à collecter et jusqu'à la fin de l'année, en sachant bien sûr qu'il y a des situations différentes selon les types de SCPI et selon aussi les types de réseaux.
Bernard Cadeau, vous allez nous parler donc du logement, on a commencé avec votre adjectif, on a connu aussi des records en 2019, en fait c'était l'année des records en 2019, oui. 10 000 euros du mètre carré, hein, on s'en souvient tous, il est clair que 2020 aurait été une année un peu plus morose probablement sur le front des records en logement.
Oui, enfin, disons que le début de l'année, c'était encore l'élan de 2019. Donc, vous l'avez rappelé, 2019, l'année des records. Le début de l'année, janvier-février, finalement, j'allais dire, tout se passait bien, y compris pour des mois de janvier-février, qui étaient plutôt de très bonnes factures. Arrive le confinement, tout s'arrête. Et puis, ça repart très fort après le confinement, avec une forme de rattrapage, mais aussi une envie d'être propriétaire, de devenir propriétaire immobilier. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais on est dans un contexte où l'épargne est très, très forte. Très, très forte. Et puis, on est aussi dans un contexte qui, malheureusement, est un contexte qui perdure, qui est celui du déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc, une tension sur les prix, toujours. Et puis, les taux restent bas. Et je pense que Philippe pourra nous en parler tout à l'heure, mais les taux restent très bas. Donc, ça soutient quand même la demande. Donc, il n'y aura pas de record battu, je pense, cette année-ci. Il y aura des secteurs où les prix auront considérablement augmenté, parce que souvenez-vous, au moment du confinement et sortie du confinement, tous ces Parisiens et Franciliens qui voulaient aller à la campagne, donc là où ils ont atterri, si je peux me permettre cette expression, forcément les prix ont monté.
Vous faites référence à l'arc des 100 km
autour
de Paris,
voilà,
de métropole.
Chartres, Orléans, Amiens, Reims, pourquoi pas, etc. Bon, là, oui, certainement que les prix auront augmenté, mais globalement, non, parce qu'il y a un moment qui arrive où on ne peut pas continuer à augmenter les prix. Vous avez cité les 10 000 euros du mètre carré, c'est Paris, ça a dépassé, c'était la barre symbolique de ces 10 000 euros. Il n'en demeure pas moins qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent acheter à Paris, par exemple.
On a multiplié par 3 les prix
en
20 ans,
l'avoir en mémoire. Et il faut penser aux primo-accédants surtout.
Exactement. Alors, vous parliez de Philippe Tabouret, on va revenir vers lui un instant. Philippe, 2020, record par rapport à 2019 ? Sur le front de l'argent, il se passe quoi ?
Non, par record, on va être en baisse, mais malgré tout très légère de production en volume de crédit, donc en nombre d'opérations financées, par rapport à l'année dernière qui était l'année de record absolu. Hein. On a dépassé des sommes astronomiques de financement. Cependant, l'année s'est très bien tenue tout au long de 2020, puisque ce qui est particulier, c'est quand même que les opérations sont décalées entre le moment on établit un projet, on origine un projet et sa finalisation, c'est-à-dire sa signature chez le notaire, il se passe dans l'ancien une durée à peu près de 3-4 mois qui a été prolongée par les confinements, par les problèmes techniques de signature à distance, etc. Donc on a des délais un peu allongés de 5-6 mois et puis pour le neuf, ça peut être un an ou deux ans. Donc on a signé quand même beaucoup de volumes, mais qui étaient des volumes précédents pour la plupart, bien sûr, la pandémie, et puis pas encore, ne tenant pas encore compte des conséquences de la crise économique.
Stéphane Descartier, votre analyse là-dessus ?
Alors oui, c'est sûr que le volume de transactions a quand même tenu bon, puisque sur l'ancien, on va finir autour de 900 000 ventes, ce qui est quand même pas mal du tout, ce qui fait quand même partie des grosses années avec en même temps 2 ou 3 mois qui ont été quasiment gelés. Alors sur le neuf, par contre, c'est beaucoup plus difficile, puisque là, on va être autour de moins 30% à peu près sur l'année, avec, alors en plus, le Covid est arrivé sur un marché qui était déjà en pénurie, notamment du fait des élections municipales. Le confinement, ensuite, rajouté des délais supplémentaires, puisque pendant le premier confinement, tous les délais ont été suspendus pour l'instruction des permis, pour les recours des tiers, etc. Et puis, en plus, la Caisse des dépôts et consignations a fait une véritable razzia sur les lots neufs qui ont échappé notamment aux particuliers. Donc effectivement, sur le neuf, ça ne sera pas une mauvaise, ça sera pas une bonne année effectivement 2020, puisqu'on va finir autour de moins 30%.
Guy Marty, quel a été le meilleur placement en 2020 ?
Les valeurs technologiques américaines, Apple, Google, ça, Amazon, Tesla. Ouais. Et oui, en fait, l'année 2020, du coup, ressemble à une extraordinaire loterie, avec des victimes qui pourtant n'avaient rien fait de mal, la restauration, l'aviation, l'hôtellerie, etc. Et puis les valeurs du digital qui ont touché le gros lot. C'est pour ça qu'il est toujours facile, mais seulement après coup, de dire quel est le meilleur placement d'une année.
Alors Bernard Cadeau, le marché en région, parce qu'on parle toujours de Paris, d'ailleurs on n'a pas dérogé à la règle, on a parlé des 10 000 euros sur Paris, mais le marché en région dans tout ça, comment s'est-il comporté ? A-t-il résisté ?
Oui, il a résisté. Alors, bien sûr, avec des différences selon les régions et surtout selon les grandes métropoles régionales. Il y a toujours cet effet TGV qui fait que là où le TGV arrive, en général, il y a beaucoup de demandes et les prix montent. Mais il y a aussi ces régions, ces fameuses régions où les Françaises et les Français ont souhaité aller dorénavant s'installer parce que la qualité de vie y est meilleure. Et puis aussi parce qu'on les y a incités via le télétravail. C'est aussi un des moteurs. Donc, ces régions-là, oui, elles ont vraiment bénéficier de cet avantage-là. Reste quand même qu'il peut y avoir une discrimination entre celles qui sont bien desservies et celles qui le sont moins, parce que ça joue quand même pas mal. Je voudrais juste terminer sur une note optimiste. Il faut quand même qu'on soit optimiste en ce moment. Bon, ouais. On vient d'avoir une décision importante du Haut Conseil à la stabilité financière et du gouvernement, en quelque sorte, pour relâcher un petit peu la pression sur les conditions d'octroi des crédits. On peut passer à 35% de taux d'endettement et aller jusqu'à 27 années d'emprunt. Je pense que c'est une façon de conclure cette année peut-être sur une note optimiste.
Guy Marty, finalement, il fallait faire quelque chose de différent début 2020 ?
Non,
qu'on a fait ?
Non, comme d'habitude, surtout comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on organise son patrimoine, on fait ses placements dans la durée, on achète un appartement, on achète des parts de SCPI. En fait, placer son argent, ce n'est pas se faire sur une vague ou ce n'est pas essayer de deviner dans quel sens va le vent. C'est se fixer un cap et le garder, surtout s'il y a de la tempête.
Philippe Tabouret, Bernard Cadeau vient nous parler du crédit. C'est vrai qu'en fin d'année 2019, début 2020, les conditions se sont resserrées notablement. Comment vous avez vécu ça sous cet angle-là et qu'est-ce que vous en espérez ? Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Bernard sur ce qu'il vient de nous dire ?
Oui, optimiste pour l'avenir, je conclurai par ça, mais pour réécrire un peu l'histoire, c'est qu'en 2019, on a eu effectivement des volumes exceptionnels de crédits distribués avec des banques qui ont été considérées comme trop souples dans leur facilité à l'accès au crédit. Bien sûr, les gens ont simplement profité de taux extrêmement bas, taux qui sont toujours en fin d'année extrêmement bas, puisqu'on est proche des records sur des durées de 20 ans, aux alentours des 1% pour emprunter. C'est vraiment une très bonne affaire que d'emprunter en ce moment. Les primo-accédants, sans apport, ayant besoin de durées très longues pour emprunter et sur des critères d'endettement de 33%, se voyaient contraints de respecter scrupuleusement ces nouveaux critères. Et puis, entre-temps, il y a eu, postérieurement à ces décisions, a eu lieu la pandémie. Puis ça a redémarré, effectivement, il y a eu l'effet bouchon, donc reprise. Et ce qu'on constate, disait, mais attention, Nous, on est des observateurs en tant qu'intermédiaires. On s'occupe des projets initiaux des candidats à l'accession. On voyait de plus en plus de refus des banques par contrainte et puis de candidats exclus du financement. Et donc, on pronostiquait dans les 6 mois qui viennent, c'est-à-dire maintenant, fin d'année, un volume de production de crédit qui allait chuter. Mais personne ne voulait le voir.
Merci Philippe Tabouret. Oui, là, on va fermer l'année. Et comme le veut la tradition, nous terminons le club avec une musique, Laurence.
Ça me dit quelque chose, je ne suis pas très douée en anglais, hein, Thomas.
Là, voilà, mais essayez de tenter.
Allez, j'essaye. Sinon, Prayer in Sea, allez, c'est quelqu'un
Bernard
qui a choisi.
Bernard est totalement bilingue.
Bernard, alors.
C'est un Prayer in Sea.
Voilà,
Lily One and the Prick. Bah, voilà. Bien, non
et ça date de 2010. C'est votre choix, Guy Marty. Vous êtes rock'n'roll, vous, aujourd'hui.
Non, mais
hein.
Si vous voulez, j'aime beaucoup. Ouais. Je ne suis pas le seul. Mais deux, c'est une très, très belle histoire parce que la jeune chanteuse l'avait sortie en 2010 dans son tout premier album. Et quelques années plus tard, le DJ Robin Schulz a souhaité la remixer. Elle a eu la modestie, l'intelligence d'accepter. Et c'est là que c'est devenu un succès international ravageur.
Merci à tous. Merci à Bernard Cadeau. Merci à Guy Marty, à Stéphane Descartier et à Philippe Tabouret d'être passé du côté d'Oser Investir ce dimanche matin.
Et merci à vous Thomas Binet. C'était le 67e et dernier numéro d'Oser Investir de l'année 2020. Merci de nous avoir suivis.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr et sur l'ensemble de nos dispositifs digitaux, sur ceux de Sud Radio et bien évidemment également sur ceux d'Oser Investir. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain.
Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore. Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore, présente.
Sud Radio, le grand matin week-end, Oser Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Et oui, c'est la suite et on se retrouve avec nos chroniqueurs pour revivre l'année 2020, Thomas.
Absolument, Laurence, en compagnie donc de Bernard Cadeau, notre consultant en logement, et de Guy Marty, notre consultant en placement et fondateur de pierrepapier.fr. On va revivre l'année 2020, on va refaire le match ensemble parce qu'il s'est passé tellement de choses en cette année 2020, une année de sidération pour tous, une année qui est à revivre. Mais seulement avec vous, parce qu'on n'a pas du tout envie de revivre l'année 2020 en 2021. Mais ça sera pour la semaine prochaine. Alors Bernard Cadeau, quel serait l'adjectif que vous voudriez retenir pour qualifier 2020? Lancez-vous, Bernard. Non.
Alors je vais dire inattendu, c'est même en dessous de la vérité, mais vraiment inattendu.
C'est inattendu? Bah et vous, oui. Guy?
Bah moi j'allais dire inimaginable.
Alors on est en duplex avec Stéphane Descartier, qui est le président de la Maison de l'Investisseur, commercialisateur en immobilier neuf. Stéphane, votre adjectif à vous, ça serait quoi?
Moi, ce serait peut-être résistance, parce qu'effectivement, avec tout ce qui nous est tombé dessus cette année, à tout point de vue, finalement, on peut se dire que le marché a bien résisté.
Philippe Tabouret, vous êtes le directeur général adjoint de CAFPI, vous êtes en duplex également avec nous et vous êtes courtier en prêt immobilier. Votre adjectif à vous?
C'est pas un adjectif, mais réinvention, puisqu'il a fallu se réinventer tout au long de l'année avec les événements.
Guy, comment s'est porté le marché des SCPI? On va en parler tout de suite, donc les sociétés civiles de placement immobilier. On a connu des records en 2019. 2020, c'est quoi le bilan?
La collecte n'est pas mauvaise du tout. Oui. On ne sait pas encore si elle va se stabiliser autour de 25, 30, 35% de baisse par rapport à 2019, qui était une année extraordinaire. Donc en fait, elles ont continué à collecter et jusqu'à la fin de l'année, en sachant bien sûr qu'il y a des situations différentes selon les types de SCPI et selon aussi l'étude de réseau.
Bernard Cadeau, vous allez nous parler donc du logement, on a commencé avec votre adjectif, on a connu aussi des records en 2019, en fait c'était l'année des records en 2019, 10 000 euros du mètre carré, et on s'en souvient tous, il est clair que 2020 aurait été une année un peu plus morose probablement sur le front des records en logement.
Oui, enfin, disons que le début de l'année, c'était encore l'élan de 2019. Donc vous l'avez rappelé, 2019, l'année des records. Le début de l'année, janvier-février, finalement, j'allais dire, tout se passait bien, y compris pour des mois de janvier-février, qui étaient plutôt de très bonnes factures. Arrive le confinement, tout s'arrête, et puis ça repart très fort après le confinement, avec une forme de rattrapage, mais aussi une envie d'être propriétaire, de devenir propriétaire immobilier. Parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais on est dans un contexte où l'épargne est très très forte. très très forte. Et puis on est aussi dans un contexte qui malheureusement est un contexte qui perdure, qui est celui du déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc une tension sur les prix, toujours. Et puis les taux restent bas, et je pense que Philippe pourra nous en parler tout à l'heure, mais les taux restent très bas, donc ça soutient quand même la demande. Donc, il n'y aura pas de record battu, je pense, cette année-ci. Il y aura des secteurs où les prix auront considérablement augmenté, parce que souvenez-vous, au moment du confinement et sortie du confinement, tous ces Parisiens et Franciliens qui voulaient aller à la campagne, donc là où ils ont atterri, si je peux me permettre cette expression, forcément les prix ont monté.
Vous faites référence à l'arc des 100 km
autour
de Paris,
voilà,
des métropoles.
Chartres, Orléans, Amiens, Reims, pourquoi pas, etc. Bon, là, oui, certainement que les prix auront augmenté, mais globalement, non, parce qu'il y a un moment qui arrive où on ne peut pas continuer à augmenter les prix. Vous avez cité les 10 000 euros du mètre carré, c'est Paris, ça a dépassé, c'était la barre symbolique de ces 10 000 euros. Il n'en demeure pas moins qu'il y a de moins en moins de gens qui peuvent acheter à Paris, par exemple.
On a multiplié par 3 les prix à 20 ans,
l'avoir en mémoire. Et il faut penser aux primo-accédants surtout.
Exactement. Alors, vous parliez de Philippe Tabouret, on va revenir vers lui un instant. Philippe, 2020, record par rapport à 2019 sur le front de l'argent, il se passe quoi ?
Non, pas record, on va être en baisse, mais malgré tout très légère de production en volume de crédit, donc en nombre d'opérations financées, par rapport à l'année dernière qui était l'année de record absolu. Hein. On a dépassé des sommes astronomiques de financement. Cependant, l'année s'est très bien tenue tout au long de 2020, puisque ce qui est particulier, c'est quand même que les opérations sont décalées entre le moment on établit un projet, on origine un projet et sa finalisation, c'est-à-dire sa signature chez le notaire, il se passe dans l'ancien une durée à peu près de 3-4 mois qui a été prolongée par les confinements, par les problèmes techniques de signature à distance, etc. Donc on a des délais un peu allongés de 5-6 mois et puis pour le neuf, ça peut être un an ou deux ans. Donc on a signé quand même beaucoup de volumes, mais qui étaient des volumes précédents pour la plupart, bien sûr, la pandémie, et puis pas encore, ne tenant pas encore compte des conséquences de la crise économique.
Stéphane Descartiers, votre analyse là-dessus ?
Alors oui, c'est sûr que le volume de transactions a quand même tenu bon, puisque sur l'ancien, on va finir autour de 900 000 ventes, qui est quand même pas mal du tout, ce qui fait quand même partie des grosses années avec en même temps 2 ou 3 mois qui ont été quasiment gelés. Alors sur le neuf, par contre, c'est beaucoup plus difficile, puisque là, on va être autour de moins 30% à peu près sur l'année, avec, alors en plus, le Covid est arrivé sur un marché qui était déjà en pénurie, notamment du fait des élections municipales. Le confinement ensuite rajouté des délais supplémentaires, puisque pendant le premier confinement, tous les délais ont été suspendus pour l'instruction des permis, pour les recours des tiers, etc. Et puis en plus, la Caisse des dépôts et consignations a fait une véritable razzia sur les lots neufs qui ont échappé notamment aux particuliers. Donc effectivement, sur le neuf, ça ne sera pas une mauvaise, ça sera pas une bonne année effectivement 2020, puisqu'on va finir autour de moins 30%.
Guy Marty, quel a été le meilleur placement en 2020 ?
Les valeurs technologiques américaines, Apple, Google,
ça,
Amazon, Tesla. Ouais. Et oui, en fait, l'année 2020, du coup, ressemble à une extraordinaire loterie, avec des victimes qui pourtant n'avaient rien fait de mal, hein, la restauration, l'aviation, l'hôtellerie, etc. Et puis les valeurs du digital qui ont touché le gros lot. C'est pour ça qu'il est toujours facile, mais seulement après coup, de dire quel est le meilleur placement d'une année.
Alors Bernard Cadeau, le marché en région, parce qu'on parle toujours de Paris, d'ailleurs on n'a pas dérogé à la règle, on a parlé des 10 000 euros sur Paris, mais le marché en région dans tout ça, comment s'est-il comporté ? A-t-il résisté ?
Oui, il a résisté. Alors, bien sûr, avec des différences selon les régions et surtout selon les grandes métropoles régionales. Il y a toujours cet effet TGV qui fait que là où le TGV arrive, en général, il y a beaucoup de demandes et les prix montent. Mais il y a aussi ces régions, ces fameuses régions où les Françaises et les Français ont souhaité aller dorénavant s'installer parce que la qualité de vie y est meilleure. Et puis aussi parce qu'on les y a incités via le télétravail. C'est aussi un des moteurs. Donc, ces régions-là, oui, elles ont vraiment bénéficier de cet avantage-là. Reste quand même qu'il peut y avoir une discrimination entre celles qui sont bien desservies et celles qui le sont moins, parce que ça joue quand même pas mal. Je voudrais juste terminer sur une note optimiste. Il faut quand même qu'on soit optimiste en ce moment. Bon, ouais. On vient d'avoir une décision importante du Haut Conseil à la stabilité financière et du gouvernement, en quelque sorte, pour relâcher un petit peu la pression sur les conditions d'octroi des crédits, avec on peut passer à 35% de taux d'endettement et aller jusqu'à 27 années d'emprunt. Je pense que c'est une façon de conclure cette année peut-être sur une note optimiste.
Guy Marty, finalement, il fallait faire quelque chose de différent début 2020.
Non,
qu'on a fait.
Non, comme d'habitude, surtout comme d'habitude, c'est-à-dire ouais. qu'on organise son patrimoine, on fait ses placements dans la durée, on achète un appartement, on achète des parts de SCPI. En fait, placer son argent, c'est pas se faire sur une vague ou c'est pas essayer de deviner dans quel sens va le vent. C'est se fixer un cap et le garder, surtout s'il y a de la tempête.
Philippe Taboret, Bernard Cadot vient nous parler du crédit. C'est vrai qu'en fin d'année 2019, début 2020, les conditions se sont resserrées notablement. Comment vous avez vécu ça sous cet angle-là et qu'est-ce que vous en espérez? Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Bernard sur ce qu'il vient de nous dire?
Oui, optimiste pour l'avenir, je conclurai par ça, mais pour réécrire un peu l'histoire, c'est qu'en 2019, on a eu effectivement des volumes exceptionnels de crédits distribués, avec des banques qui ont été considérées comme trop souples dans leur facilité à l'accès au crédit. Bien sûr, les gens ont simplement profité de taux extrêmement bas, taux qui sont toujours en fin d'année extrêmement bas, puisqu'on est proche des records sur des durées de 20 ans, aux alentours des 1% pour emprunter. C'est vraiment une très bonne affaire que d'emprunter en ce moment. Les primo-accédants, sans apport, ayant besoin de durées très longues pour emprunter et sur des critères d'endettement de 33%, se voyaient contraints de respecter scrupuleusement ces nouveaux critères. Et puis, entre-temps, il y a eu, postérieurement à ces décisions, a eu lieu la pandémie. Puis ça a redémarré, effectivement, il y a eu l'effet bouchon, donc reprise. Et ce qu'on constate, disait, mais attention, nous, on est des observateurs en tant qu'intermédiaires. On s'occupe des projets initiaux des candidats à l'accession. On voyait de plus en plus de refus des banques par contrainte et puis de candidats exclus du financement. Et donc, on pronostiquait dans les 6 mois qui viennent, c'est-à-dire maintenant, fin d'année, un volume de production de crédit qui allait chuter. Mais personne ne voulait le voir.
Merci Philippe Taboret. Oui, alors on va fermer l'année. Et comme le veut la tradition, nous terminons le club avec une musique, Laurence.
Ça me dit quelque chose, je ne suis pas très douée en anglais, hein, Thomas.
La voix, oui, franche,
allez, j'essaye. Sinon, Prayer in Sea, allez, c'est quelqu'un
Bernard
qui l'a choisi.
Bernard est totalement bilingue.
Bernard, alors.
T'es un Prayer in Sea.
Voilà,
Lily One and the Prick. Bah voilà.
Et ça date de 2010. C'est votre choix, Guy Marty. Vous êtes rock'n'roll, vous, aujourd'hui.
Non, mais si vous voulez, j'aime beaucoup. Ouais. Je ne suis pas le seul. Mais deux, c'est une très, très belle histoire parce que la jeune chanteuse l'avait sortie en 2010 dans son tout premier album. Et quelques années plus tard, le DJ Robin Schulz a souhaité la remixer. Elle a eu la modestie, l'intelligence d'accepter. Et c'est là que c'est devenu un succès international ravageur.
Merci à tous. Merci à Bernard Cadot. Merci à Guy Marty, à Stéphane Descartier et à Philippe Taboret d'être passés du côté d'Oser Investir ce dimanche matin.
Et merci à vous Thomas Binet. C'était le 67e et dernier numéro d'Oser Investir de l'année 2020. Merci de nous avoir suivis.
Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr et sur l'ensemble de nos dispositifs digitaux, sur ceux de Sud Radio et bien évidemment également sur ceux d'Oser Investir. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, le club, 9h30-10h, Thomas Binet.
Avec Groupe Peloux, l'immobilier est bien plus encore.